notre vie professionnelle d'universitaire. Ça engage le pays.
Alexandre Allaire voulait intervenir, poser une question à nos deux invités.
Je vais faire semblant de poser une question. Je vais commencer par une affirmation. C'est que je trouve ce mouvement des enseignants-chercheurs, pour la première fois depuis fort longtemps, un des plus légitimes que l'on puisse imaginer, et pour la raison suivante. On peut poser trois équations. Premièrement, ne pas payer les gens. Deuxième équation, ne leur accorder aucune considération. Troisièmement, leur demander d'obéir. Eh bien, il y a une équation de trop, évidemment. On peut combiner, mais on ne peut pas réussir absolument le grand chelem. En 45, 46, disons à la Libération, les enseignants n'étaient pas très payés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Simplement, dans une France beaucoup plus pauvre, ils étaient un peu plus, mais ils avaient déjà des difficultés de fin de mois. Mais au moins était-il l'objet d'une considération extrême. Il représentait la pointe avancée, notamment les chercheurs, regardez les mythes de cette époque, de la société. On peut aussi imaginer une massification qui s'accompagne d'une montée des rémunérations et qui assure une égalité quand même avec des professions comparables qui demandent un effort comparable dans l'industrie. C'est ce qu'on a fait en gros en médecine. Mais les trois, ça fait beaucoup. Et à ça s'ajoute le problème de la sélection, de l'évaluation. Ça, le problème de l'évaluation, il faut comprendre pourquoi ça rend les enseignants fous. Moi, j'ai connu ça. Si vous voulez, dans un premier temps, j'ai fait 2 ans de secondaire. Je pense que ça m'a d'ailleurs poussé à accélérer le rythme du départ. Mais j'ai d'abord été inspecté par mon ancien professeur de Cagnes, qui était une bonne inspection générale à la papa. Il me connaissait en plus. Bon, mais bon, il était particulièrement indulgent. Mais enfin, on avait affaire à quelqu'un qui avait une expérience, une vérité, en fait, dans ce qu'il faisait. Puis sont venus les inspecteurs pédagogiques régionaux, précédés par l'agrégation à titre personnel. Ça a été inventé pour les proviseurs. Avant, le proviseur aussi était un vieux monsieur qui, bon. Ensuite, c'est devenu un indicateur de police après 1968 qui répondait aux questionnaires des renseignements généraux. Ça valait bien l'agrégation à titre personnel. Et après ça, on a inventé l'inspecteur pédagogique régional, c'est-à-dire le petit gars, mais qui croit, n'est-ce pas, et qui inspecte comme ça, qui dit voilà ce qu'il faut penser. Alors maintenant, évidemment, pas d'inspection dans le supérieur. Ça fait rien, on va évaluer. On va évaluer avec des gens mais qui t'es, toi? On va lui dire, mais qui évalue, quis custodiet custodes, comme disait Cicéron, dans un langage moins familier. En gros, et ce problème de l'évaluation est une humiliation totale. Parce qu'il suppose, en fait, il y a un discours subliminal de la ministre, Sévrienne, je crois, mais qui est passée ensuite activement à l'ENA, qui consiste à dire, il y a trop d'enseignants, ils ne servent à rien, les chercheurs ne trouvent rien, donc il faut quand même leur faire faire quelque chose. On va les faire ranger un peu les étagères. Ceux qui travaillent le moins, eh ben, au moins, ils vont enseigner les chiards. Et puis les autres, eh ben, on va essayer de vérifier un peu plus, de leur foutre un peu la trouille. Quand on traite les gens comme ça, mais quelle réaction peut-on avoir? Quand on a cette vision-là de l'enseignement et de la recherche dans un pays comme le nôtre, quand on voit l'importance qu'on accorde aux footballeurs, aux chanteurs, aux danseurs de claquettes et autres imitateurs, mais comment, je m'étonne même qu'il n'y ait pas eu des morts et des émeutes comme en Thaïlande. Je crois qu'on traite plus bas que terre le corps enseignant et les chercheurs, et bien entendu, nous le paierons.
Avant de donner la parole à Alain Gérard Slama, une réaction sur cette présentation synthétique d'Alexandre Adler, Laurence Giavarini.
Je pense que cette analyse va être podcastée un certain nombre de fois par les enseignants-chercheurs. Non, bien sûr, je suis d'accord, sur l'ensemble de l'analyse, hein, aucune considération pour les corps mobilisés, pas simplement les enseignants-chercheurs, mais aussi les personnels administratifs et techniques. Beaucoup de personnels sont concernés par le mouvement. Ce qui est au cœur du refus, c'est une demande d'obéir, parce qu'il y a sans doute un mépris des ministres, de la ministre pour la recherche. Il y a une volonté de contrôle. L'instrument de l'évaluation est un instrument de contrôle qui est complètement en désaccord avec ce qu'est la recherche dans son principe même.
Sophie Vanish.
Je pense que l'attitude du gouvernement est le reflet de quelque chose de très profond aujourd'hui, c'est-à-dire un mépris du savoir, un mépris de l'étude, un mépris de la culture. et que finalement ce qui se passe à l'égard des enseignants-chercheurs a à voir avec l'évocation de cette guichetière dont on se demandait s'il était bien nécessaire qu'elle étudie la princesse de Clèves. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui se joue sur une durée qui n'est pas celle simplement du mandat de notre président, mais qui s'est jouée sur son élection en amont et sur la possibilité de déconsidérer les activités humaines qui ne seraient pas immédiatement utiles économiquement, qui ne produiraient pas immédiatement des rentrées en termes d'argent.
Mais c'est la question de la recherche fondamentale contre la recherche
appliquée. Pas simplement
de
l'étude dans la société, de la place de la littérature, de la place de la culture, de la place qu'on peut donner à toutes les activités qui relèvent de l'otium, qui relèvent de ce qui n'a pas à voir avec le négoce, de ce qui n'a pas à voir. Voilà. C'est l'ensemble de cette disqualification qui se répercute également dans les ambiances scolaires du secondaire, où effectivement, pourquoi si un footballeur est plus considéré, gagne mieux sa vie, pourquoi faire l'effort de comprendre un texte de Victor Hugo ou même une pièce de Molière, puisque finalement cela ne donnera aucune qualification et ne donnera pas non plus de possibilité d'entrer en société avec les autres. C'est quelque chose de disqualifiant aujourd'hui. Je pense que ce qui se joue autour des universités est donc quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et qui mérite une attention soutenue parce qu'il s'agit de savoir dans quelle société on souhaite vivre.
Victor Hugo qui jouait avant-centre, il faut le rappeler. Alain-Gérard Slamat, vous aviez une question pour nos deux invités.
Oui, ma question est la suivante. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je suis totalement d'accord, évidemment, avec ce que vient de dire Sophie Vanish. Elle s'en doute bien. On mesure à quel point l'intervention du président de la République le 22 janvier a été catastrophique dans ses conséquences, pour ne rien dire, de l'affaire de la princesse de Clèves, etc., etc. Cela dit, dans cette réforme, il y avait quelque chose qui n'était pas mauvais. J'ai quelques années de plus d'expérience de l'enseignement que Alexandre Adler, donc je voudrais compléter ce qu'il a dit, non pas du tout l'affirmer, mais le compléter. J'ai quand même observé souvent que des chercheurs, en particulier en sciences humaines, pataugeaient et du même coup n'avançaient pas dans leur carrière, alors qu'un bon président d'université aurait pu, en les orientant davantage vers l'enseignement, leur permettre une promotion interne beaucoup plus satisfaisante. Et réciproquement, est-ce que ça n'était pas ça quand même l'idée l'une des idées importantes de cette réforme? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait de toute façon trouver une solution à ce problème-là?
Alors, Sophie Vanish, une réponse à Alain-Gérard Slamat, pendant qu'Alexandre réclame la parole ardemment.
Je ne suis pas convaincue que lorsqu'un chercheur, entre guillemets, patauge, puisque c'est le mot qui a été employé, la bonne solution soit de trouver une diversion par l'enseignement. Parce que s'il patauge dans sa recherche, il risque également de patauger dans son rapport aux étudiants. Je pense que le chercheur qui peut, je dirais, patiner, qui est tout à fait autre chose, c'est-à-dire il y a un moment où on réfléchit et où on ne sait pas où on va. Et c'est le propre de la recherche. Parce que si on sait où on va, c'est qu'on n'est pas en train de chercher, mais qu'on est en train de reproduire des choses qui existent déjà. Et que donc, il y a un moment d'incertitude, un moment d'indécision, un moment difficile dans l'activité même de la recherche. Et que ce moment-là suppose des étayages avec des gens qui sont dans la même situation. Et donc, c'est ce qui était évoqué en termes de séminaire de recherche, de manière à pouvoir débloquer des situations où on ne trouve pas des solutions soi-même face à certains objets. Et pouvoir continuer un parcours qui est quand même censé être un parcours de singularité. Le parcours de la recherche, je ne dis pas d'un chercheur, mais c'est de produire quelque chose qui ne se produit pas ailleurs ou qui se produit peut-être ailleurs d'une manière conjointe, mais il s'agit d'inventer. L'invention, ça ne suppose pas quelque chose qui a à voir avec une productivité mécanique. Et je trouve qu'on voudrait des chercheurs shooter au Viagra de la recherche, et je pense que c'est impossible, que le désir intervient dans la possibilité d'inventer, et que ce qui est remis en question, c'est le fait que le moteur de ce travail, c'est effectivement le désir et de chercher et d'enseigner.
Anna Gérard,
je disais que ça suppose une vocation tout de même. Je sais très bien qu'en mathématiques, il faut des années pour arriver à maturer et à trouver quelque chose.
C'est l'inverse. Dans les sciences humaines, il ne faut pas traîner jusqu'à 35 ans, après on peut enseigner.
Oui.
Mais tout ce qu'on trouve, on le trouve entre 20 et 30.
Et oui, voilà. Non, enfin,
pas nécessairement. Pas pour les enseignants-chercheurs.
pas nécessairement en particulier dans les sciences humaines. Mais enfin, quand je disais pathogé, vous savez, il y a quand même beaucoup de chercheurs, vous le savez bien, qui tournent en rond. Il suffit d'avoir été quelque temps au CNU, de voir les dossiers qu'on reçoit, et on se dit, mais mon Dieu, combien ces candidats pourraient donner mieux leurs mesures dans une chaire de faculté.
C'est Alexandre Adair qui veut vous répondre, Alain Gérard.
Alors, mon cher camarade Alain Gérard, oui, là, le drapeau noir est sur la marmite. Premièrement, qui sont, n'est-ce pas, tous ces illustres pères conscrits là du CNU? Regardez par exemple en philosophie ce qu'ils ont fait. Ils ont exilé absolument tous les talents et loin, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est des gens dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'ils n'ont pas besoin de publicité, mais ça va tout seul. Personne ne sait qui c'est et c'est heureux. Mais par contre, on sait qui est Michel Serre, on sait qui est Jacques Derrida, on sait qui est... Michel Foucault, j'en perds mes moyens tellement je suis indigné. Voilà les gens qui ont été sélectionnés. On a refusé à Althusser.
Ça continue, vous
croyez quand même qu'on va donner le pouvoir à des cocos pareils?
Mais non, j'en suis
complètement d'accord. C'est là où la fonction publique est une défense, enfin, contre des salauds pareils. Les chercheurs demandent le CNU. Bon, ils courent partout. Maintenant, deuxièmement, cette idée, n'est-ce pas, qui est tout à fait qui est présente, mais qui est prégnante dans tout le texte, c'est celle que l'enseignement, c'est moins. Je veux vous dire une chose. Jean Meuvray, qui a été un des plus grands esprits de l'école des Annales, avait un blocage à l'écriture. Il a fallu, à la fin de sa carrière, que ses élèves l'obligent à publier un livre d'articles. Mais vous ne pouvez pas mesurer ce que Jean Meuvray a fait à l'école des hautes études en matière d'histoire économique et sociale. Althusser n'était pas non plus un graphomane. Hein. C'est-à-dire, par contre, je connais bien des nullités qui sont capables de produire 150 pages par an, et ce sont des grands chercheurs. Non mais où vit-on? C'est-à-dire que, bien entendu, avec des principes pareils, on va bien aller loin, mais moi, je pense qu'il faut riposter. Il faut demander des examens psychiatriques à tous les énarques, à peu près tous les deux ans, trois ans, à leur sortie, pour voir si, lorsqu'ils sont sous-préfets, ils gardent leur santé mentale.
Encore du travail pour la EARS.
Pour qui nous prennent-ils? Parce que là, je me ressens enseignant, mais pour qui nous prennent-ils? Qui va nous juger?
Alexandre.
Qui va le faire? Mais c'est une honte.
Alexandre,
c'est là où la société française montre qu'elle est en dessous de zéro. Elle est bonne pour Bigard, oui. Elle n'est pas bonne pour Joliot-Curie ou pour Althusser.
Jean-Marie Bigard,
oui, là, le clown, là, et quelques autres. C'est ça, aujourd'hui, la classe dirigeante.
Il nous a absolument rien demandé ce
matin. Sur la classe dirigeante. Il faut réhabiliter les mandarins, il faut réhabiliter les chercheurs, il faut réhabiliter les intellectuels, sinon notre société est foutue. C'est pour ça que cette bataille, les intellectuels, oui, ceux qui carburent, et même ceux qui carburent moins. Et l'enseignement, évidemment, est le sommet de cela.
Laurent Giavarini, vous vouliez réagir.
Oui, il y a plusieurs drapeaux sur la marmite.
Oui, oui,
là.
De plusieurs couleurs.
Non, je voudrais revenir sur cette idée que ce que nous défendons est un savoir découplé de toute application, qui serait le lieu de l'otium, du loisir lettré. Je suis dans une discipline qui peut paraître le summum du loisir lettré, puisque je travaille sur la littérature, plutôt en historienne de la littérature. Mais je crois qu'il y a deux choses. Ce dont il s'agit, c'est du découplage du temps de la recherche, de l'investigation et du temps de l'application, dont parlait Alexandre Adler il y a un instant avec l'exemple de cet historien qui a produit un livre à la fin de sa carrière. Et une partie de la recherche, au demeurant, se fait à travers l'enseignement, dans les séminaires. Beaucoup d'enseignants-chercheurs, vous le direz, ils ont besoin de passer par leurs cours, de passer par les séminaires, et pas seulement les séminaires de master, pour aussi construire la transmissibilité de leur recherche.
En quelques secondes, l'une et l'autre, quelles sont les suites de ce mouvement? Donc, je disais qu'il entre dans sa 11e semaine, la période des examens normalement approche. Il y a deux appels à manifestation, 28 avril et 1er mai.
Alors, il y a le court terme, effectivement, qui concerne les manifestations, l'organisation des examens. Il y a à l'évidence aussi le long terme. Je crois que nous sommes engagés dans une lutte politique qui va durer. On s'en rend compte rien qu'à la façon dont il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de débat. Ce que nous devons organiser maintenant, et nous sommes vraiment prêts à le faire, c'est une lutte de longue haleine. Parce qu'il va falloir revenir sur ces réformes dans leur détail, mais aussi sur le principe de ces réformes, sur l'idéologie qui traverse l'ensemble des mesures qu'on essaie de nous imposer.
Pendant que Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, a dit qu'il ne reviendrait jamais sur la loi de réforme des universités, la loi d'autonomie. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Giavarini. Sophie Vanni, je rappelle, je renvoie à un texte que vous avez publié dans Le Monde il y a une dizaine de jours, après 1789-2009, point d'interrogation. Évidemment, il est question en filigrane du mouvement des universités, mais vous prenez une focale plus, plus plus large pour parler d'une crise de civilisation. Il est en ligne, on peut le trouver encore, ce texte sur Internet. Merci encore à toutes les deux d'avoir été avec nous. Il est 9h05 sur France Culture.